Bonjour, chers amis. À partir du moment où les pouvoirs publics de la Ve République ont décidé de résoudre les problèmes en interne par la loi et non par un concordat avec le Saint-Siège, c'est qu'ils considèrent bien sûr l'Église en France comme séparée de l'État, mais aussi comme participant au fonctionnement de la société par l'intermédiaire de ses organismes et de ses établissements d'enseignement. Cela veut dire également que ces pouvoirs publics entendent régler chaque problème individuellement et non pas globalement. Cette volonté de résoudre un problème indépendamment de l'ensemble a ouvert la voie à de nombreuses dispositions en faveur non seulement des catholiques, mais aussi des protestants, des réformés, des juifs et des musulmans. Autant de dispositions qui, aux yeux des laïcs, apparaissent comme de sérieuses entorses à la laïcité. Citons ces dispositions. Une loi de finances du 29 juillet 1961 autorise le ministre des Finances, les départements et les communes, à garantir les emprunts contractés pour financer la construction d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux, emprunts contractés par des groupements ou des associations à caractère national, ou par des groupements locaux ou par les associations cultuelles. Un décret du 13 juin 1966 institue le jour du catéchisme. Une circulaire Lamartinière de 1969 exonère les honoraires de messe de l'impôt sur les revenus pour le prêtre. Une directive du président Pompidou en 1970 invite les pouvoirs publics à rouvrir aux congrégations religieuses les possibilités de reconnaissance légale. Mais cette disposition ne sera connue que 17 ans plus tard, à l'occasion de la réponse du ministre de l'Intérieur à une question écrite du Sénat. Une loi de 1978 intègre les ministres des cultes et les religieux dans le système national de protection sociale, en créant pour eux la CAMAC, la caisse maladie, et la CAMAVIC, la caisse vieillesse, maintenant réunies dans la CAVIMAC. La raison en est que les ministres des cultes sont des citoyens comme les autres et donc qu'ils doivent pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Mais comme cette caisse est chroniquement déficitaire en raison de la démographie de ses ressortissants, eh bien le déficit est couvert par la CNAM, lui-même couvert par le budget de l'État. Surtout, la très importante loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat autorise les déductions fiscales pour les dons faits à certaines associations, dont les associations cultuelles de 1905 et les associations diocésaines de statut type de 1923, puisque ces deux catégories d'associations disposent de la grande capacité juridique. On pourrait y voir l'occasion d'un financement indirect des cultes par l'État. L'article 7 de l'ordonnance du 15 juin 2000 définit les conditions de l'enseignement religieux dans les écoles publiques et dans les écoles privées. En 2002, une instance de dialogue entre le gouvernement de la République et les représentants de l'Église catholique en France, comportant le nonce apostolique, le président de la conférence épiscopale, l'archevêque de Paris et les vice-présidents de la conférence, cette instance est mise sur pied. Prévue au point de départ pour être une instance qui traiterait des problèmes institutionnels liés à la situation juridique de l'Église catholique en France, cette surface de contact a permis également des échanges de vues sur bien d'autres questions de société. Et on pourrait encore mentionner la reconnaissance du secret de la confession, distincte du secret professionnel. On peut rajouter que si la laïcité de l'État lui interdit d'intervenir dans le fonctionnement interne des cultes, cela n'empêche pas certaines relations de courtoisie ou de bonne entente entre l'État ou tel et tel culte. Pour l'Église catholique, par exemple, la gestion du patrimoine que sont les églises donne l'occasion de multiples relations entre les maires et l'Église, pour la gestion des églises paroissiales et entre le service de l'État et les diocèses pour la gestion des cathédrales. Dans l'ensemble, les relations sont bonnes et on peut noter, depuis un certain nombre d'années, un investissement important de beaucoup de communes pour l'entretien de leurs églises, au moins au titre de la sauvegarde du patrimoine. Concernant l'islam, les représentants de l'État sont allés plus loin dans une intervention touchant le fonctionnement d'un culte. Ils ont souhaité se donner des interlocuteurs qualifiés et ont aidé à la mise en place d'une structure religieuse nationale, le Conseil français du culte musulman. Avouez que nous sommes assez loin ici d'une conception de la laïcité pensée en termes de séparation rigoureuse. De toute cette évolution sur 100 ans, il résulte aujourd'hui une situation des plus complexes au niveau de notre laïcité. Elle n'est ni générale ni uniforme, et on peut dire qu'elle est loin de la laïcité de combat de la religion qu'elle était au départ. On comprend bien aussi que c'est l'État qui est laïque et non la société française. Mais aujourd'hui, on trouve trois conceptions de la laïcité dans l'esprit des Français. Une laïcité négative, issue du positivisme d'Auguste Comte et du scientisme, et qu'on pourrait appeler laïcité laïcarde. Cette conception de la laïcité est contraire au droit en vigueur. Une autre laïcité négative qui serait la permissivité absolue avec une neutralité totale de l'État. Cette conception est aussi contraire au droit. Enfin, une laïcité positive, conçue comme la neutralité efficace de l'État, et dont nous avons essayé de donner les contours et les évolutions. Ce troisième sens est le seul valable suivant le droit français en vigueur aujourd'hui. Mais beaucoup de nos concitoyens ont une fausse notion de la laïcité et adhèrent aux deux premières conceptions négatives, plus souvent par ignorance ou désinformation que par idéologie, même si cette dernière est bien présente. La prochaine fois, nous verrons comment l'Église catholique se situe par rapport à la laïcité.